Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'émission Regards sur le passé, animée par le service du patrimoine de la mairie. Vous êtes avec Annabelle et je vais vous parler aujourd'hui de l'industrie de la soude à l'Île-Dieu au cours du 19e siècle. Mais alors, quand cette industrie du brûlage des algues débuta-t-elle sur l'île ? À quoi servait la soude ainsi obtenue ? Qui la fabriquait et comment ? De nos jours, des vestiges éparses révélateurs de cette activité viennent compléter les souvenirs des rares témoins qui, au crépuscule de leur vie, se souviennent encore avoir pratiqué ce métier laborieux de soudier. Les prémices du brûlage des algues à l'Île-Dieu remontent à la fin du XVIIIe siècle. En effet, au tout début de la Révolution, le 11 février 1790, le Conseil général de la Commune prit une délibération indiquant « Le corps municipal, ayant vérifié le préjudice que porte aux habitants l'usage par quelques particuliers de faire brûler du goémon le long des côtes de l'île, et dont les principaux dommages sont le dépérissement des grains, la privation du chauffage et l'engrais des terres. » Le procureur de la commune, devant ce constat, prit alors la délibération suivante. Il est défendu à toute personne de tenir des fourneaux à soude en quelque endroit de l'île et sous quelque prétexte que ce puisse être, sous peine de confiscation de la soude et de 3 livres d'amende. Malgré cette interdiction, la fabrication de la soude redémarra sur l'île de manière significative à partir des années 1820. Dès le 3 juin 1821, on vit même apparaître un règlement sur la fabrication de la soude pris au terme d'une délibération municipale. Mais il ne faut pas oublier qu'autrefois l'Île-Dieu avait un statut bien particulier. Jusqu'en 1785, l'Île-Dieu était la propriété du duc Jean-Baptiste de Rochechouart-Mortemart. Mais le duc consentit la vente de l'île au roi Louis XVI le 11 février 1785. Le nouveau statut de l'île fut fixé par la loi du 10 juillet 1791 qui l'assimila à une colonie, notamment pour le commerce réglementé tant par ses importations que pour ses exportations de biens et de marchandises. Ce commerce en franchise y était soumis à autorisation et le maire devait chaque année dresser une liste des besoins des habitants au préfet du département de la Vendée qui lui-même la communiquait au ministère de tutelle. Un arrêté portant autorisation d'importer ou d'exporter des marchandises nommément désignées et listées fixait dans les détails la liste des biens bénéficiant d'une franchise et ce, jusqu'en 1860. En ce qui concerne la soude, son exportation en franchise figurait dans la liste des arrêtés successifs autorisant son exportation sur le continent. Ainsi, ces autorisations nous renseignent aujourd'hui sur les quantités autorisées, mais également sur les ports par lesquels ce commerce devait se faire. Les premiers ports où était exportée la soude produite à l'Île-Dieu étaient ceux de Saint-Gilles, de Pornic, de Bordeaux et de Rouen. Dès 1821, une autorisation d'exportation de 75 tonnes de soude va être demandée par le maire de l'Île-Dieu. Elle passera à 150 tonnes en 1822 et en 1826 et 1827, les quantités autorisées en franchise pour le seul port de Bordeaux étaient de 200 tonnes de soude chaque année. À partir de 1845, le port de Granville va apparaître comme nouvelle destination pour la soude provenant de l'Île-Dieu. Ainsi, 146 tonnes de soude seront autorisées à l'export vers ce port en 1846. Cette commercialisation va continuer à croître sans discontinuer, atteignant 400 tonnes en 1860. C'est probablement l'importance de la quantité de soude fabriquée sur l'île qui va être à l'origine de la création, le 6 janvier 1860, d'un bureau des douanes à Port-Joinville. Le directeur des douanes de Vendée indiquait alors au maire que cette mesure Faites disparaître les entraves qu'imposait à votre commune le régime exceptionnel sous lequel elle a été placée pour ses communications extérieures. Aujourd'hui, en effet, l'Île-Dieu pourra, comme tous les ports secondaires de France, entretenir des relations directes avec l'étranger, comme avec tous les points du continent. Le statut de l'île, en tant que colonie, fut donc aboli en cette année 1860. Mais alors, qui étaient ces soudiers? Qui étaient ces brûleurs de Goémont? Des arrêtés des 7 juin et 20 septembre 1860 imposaient pour faire la soude l'obtention d'une autorisation délivrée par la préfecture de la Vendée. Grâce à ces autorisations, il est aujourd'hui possible de connaître les origines des brûleurs de Varec. Il est intéressant de remarquer que pour l'année 1860, le préfet de la Vendée délivra des autorisations pour produire de la soude à 152 chefs de famille, dont 148 ont pu être identifiés avec certitude. Et la majorité d'entre eux étaient originaires principalement de la partie littorale de la Vendée et du marais breton-vendéen, avec des gens venant de Noirmoutier, de Boin, du Pays de Mont, de Croix-de-Vie ou du Fenouillet. Ce sont ceux qu'on appelait les maraîchins. On a donc là une véritable immigration maraîchine qui s'est poursuivie sur l'île tout au long du XIXe siècle. Elle permit un véritable renouveau démographique, car le déclin du cabotage et la mort prématurée de nombreux matelots de commerce en raison des guerres maritimes et de leur enrôlement forcé sur les vaisseaux du roi avaient laissé l'île exsangue. Les conséquences sur la démographie insulaire étaient catastrophiques. L'île perdit ainsi la moitié de sa population en un siècle. Elle comptait environ 5000 habitants au début du XVIIIe siècle, contre seulement 2400 au début de la Révolution. Ce déclin fut largement accentué par les guerres de la Révolution et de l'Empire. Cette migration des maraîchins vers l'Île-Dieu s'explique par le fait que le marais breton-vendéen connut à la même époque une crise économique importante liée à l'abandon progressif des marais salants. Le déclin du commerce du sel face à la concurrence étrangère et à une fiscalité trop lourde entraîna le départ de nombreux habitants du marais, dont certains vinrent s'établir sur l'Île-Dieu. Ce qu'on en nommait alors les étrangers s'installèrent sur l'île en tant qu'éleveurs et agriculteurs. Le docteur Viau Grand Marais indique en 1868 dans ses excursions botaniques à l'Île-Dieu que la fabrication de la soude de Varec occupe surtout les étrangers à qui elle permet de vivre mais qu'elle ne paraît pas enrichir. Sans oublier qu'à cette époque encore, l'île jouissait du privilège de la veine pâture, permettant la libre circulation des troupeaux sur toutes les terres de l'île non entourées de murs. Les adversaires de ce droit coutumier se plaignaient alors surtout de l'installation sur l'île de ces étrangers, pouvant, sans posséder une seule parcelle de terre, entretenir leurs troupeaux. Ainsi, les partisans de l'abolition de ce privilège expliquent: depuis quelques années, il est venu s'établir sur l'île une grande quantité de malheureux du continent pour exploiter le varech, pour en faire de la soude et du charbon, ce qui a contribué à mettre sur l'île une grande quantité de chevaux et d'ânes, tels qu'aujourd'hui le droit de veine pâture proprement dit ne suffit plus à leur nourriture, ces gens n'ayant aucune propriété dans l'île. Avec l'arrivée de ces soudiers du continent et du fait du droit de veine pâture, le nombre de chevaux établis sur l'île va considérablement augmenter, passant de 72 bêtes en 1842 à plus de 320 ans plus tard. Après de nombreuses plaintes, principalement liées aux dégâts causés par ces animaux sur les récoltes, la disparition des ajoncs, qui étaient alors le moyen de chauffage principal sur l'île, et l'impossibilité pour les propriétaires terriens de planter des arbres sur leurs parcelles car rapidement mangés par ces chevaux, ce droit de veine pâture sera supprimé définitivement en 1899. Mais il faut bien imaginer aussi que le métier de soudier était une activité d'appoint pour les plus démunis. En effet, ce métier n'eut jamais un rôle économique prépondérant sur l'Île-Dieu, c'était simplement une activité secondaire qui a largement contribué à améliorer la situation des habitants les plus démunis. Elle fournissait un revenu de complément et n'était qu'une activité saisonnière. Le travail de la terre sur l'île demeurait peu rentable, du fait d'un fort morcellement de la propriété, de conditions météorologiques difficiles avec des vents violents et la présence fréquente des embruns salés, et de la faible épaisseur du sol arable avec seulement 20 cm de terre recouvrant en moyenne le substrat rocheux. Ainsi, sur l'île Dieu, 2/3 des terres étaient impropres à la culture, laissées aux landes. Avant l'arrivée de ces agriculteurs continentaux, les terres étaient principalement travaillées par les femmes, les hommes étant à la mer, et quelques laboureurs. Avec la venue de ces nouveaux arrivants, les surfaces cultivées vont considérablement augmenter, passant de 700 hectares en 1843 à 927 en 1859. Établis comme agriculteurs, les brûleurs de Goémon venus du continent vivaient dans un dénuement considérable, comme en témoigne Victor Eugène Ardouin Dumazet dans son voyage en France. Il raconte « À la pointe de la Gournaise est un dolmen à demi détruit. Tout autour du vieux monument, on brûle des varechs. Rien ne saurait rendre l'air misérable des gens occupés à ce travail. Hommes et femmes sont vêtus de haillons. Les enfants, par contre, ont un air de santé superbe. Ils s'en vont, à peine vêtus d'une chemise en loques, sur laquelle d'innombrables mouchetures, produites par des piqûres de puces, disent assez sur la malpropreté des gîtes où ils doivent dormir. Mais les parents, Ave, s'agitant autour du brasier d'où monte une fumée épaisse près de roches druidiques, en vue de cette côte tourmentée et inculte, font naître une impression de pitié profonde. Mais alors, comment cette soude était-elle fabriquée ? Grâce à différents témoignages recueillis auprès d'anciens soudiers qu'étaient Adrienne Ricolo ou Gilbert Dupont, ou encore par les écrits que nous ont laissés quelques auteurs qui ont côtoyé sur l'île ces brûleurs de varech, le procédé de fabrication de la soude à l'île Dieu peut être retracé. Tout d'abord, le ramassage des algues se déroulait de la fin de l'hiver au début de l'été, période pendant laquelle on pêchait le goémon qui venait à la côte. La meilleure période se situait entre le 15 avril et le 15 mai, période appelée le coup de goémon. C'est l'époque de l'année où les frondes de la laminaire, qu'on appelle à l'île Dieu la queue-jeanne, se renouvellent. Les anciennes se détachent des stipes, donc des pieds, et sont rejetées à la mer. Les hommes entraient alors dans l'eau jusqu'à la ceinture et tiraient avec de longs râteaux de grève en bois toutes les sortes d'algues, avec une préférence pour les fameuses queue-jeannes. Les soudiers descendaient également sur les rochers à marée basse pour les couper. Pour remonter les algues à dos de cheval, on les entassait dans des sortes de boîtes formées de planches peu larges et disposées à quelques centimètres les unes des autres, permettant ainsi à l'eau de s'écouler. Il est intéressant de remarquer la similitude de conception entre ces boîtes pour les algues et les casiers de pêche en bois. Ces caisses étaient maintenues de chaque côté du cheval par une pièce de bois. Une fois le goémon remonté de la raie vers la chaume, on ouvrait les portes situées sur le dessous des boîtes grâce à un petit loquet, faisant ainsi tomber les algues directement au sol. Chaque famille avait sa parée, espace réservé sur lequel elle pouvait déverser le varech. Il est à noter que lorsqu'un cheval ne pouvait accéder à une plage car l'accès était beaucoup trop escarpé, les soudiers remontaient ces algues sur leur dos dans des hottes en bois. On étalait ensuite ces algues sur la dune afin de les faire sécher, mais pas trop. Il ne fallait pas qu'il pleuve, sans quoi l'eau douce aurait altéré les propriétés salines des algues. Puis, on en faisait de petits tas, appelés petites javelles, et quand elles étaient bien sèches, on réunissait les javelles pour faire la mouche, un grand tas. On brûlait ensuite les algues dans des fournias, ou fourneaux, aménagés à même la dune, sorte de tranchées de 4 à 6 mètres de long et de 60 à 70 cm de largeur. Des pierres étaient disposées sur le fond et sur les côtés afin de retenir le sable de la dune. On graissait la partie intérieure du four avec de la glaise afin de retenir la soude. Le brasier était allumé au moyen d'ajoncs bien secs, de paille ou encore de giroflées des dunes séchées. Puis, on disposait par-dessus les algues quand le feu était bien pris et que les pierres étaient chaudes. Pendant que les hommes chargeaient le foyer, les femmes, au moyen de truands, en sorte de grands crochets à deux dents, amenaient le goémon du tas jusqu'au brûleur. Sous l'effet de la chaleur, les algues fondaient peu à peu jusqu'à former une sorte de lave en ébullition qui était brassée en permanence avec un brassoir pour éviter qu'elle ne se transforme en cendre. Quand la soude commençait à se solidifier, il fallait la damer vivement pour mieux la compacter. On disait alors qu'on pliait la soude. Le lendemain ou le surlendemain, quand la soude était froide et dure, on la cassait en blocs appelés pains à l'aide d'une masse et d'un poinçon. Le travail durait toute la journée et pour ne pas perdre de temps, plusieurs fourneaux pouvaient être allumés simultanément. Il arrivait même que l'opération de brûlage se poursuive tard dans la nuit. Le docteur Viaud-Grandmarais explique d'ailleurs dans son guide du voyageur à l'Île-Dieu que « Le soir, l'aspect de ces feux étranges autour desquels s'agitaient des hommes avait quelque chose de sabbatique. On produisait en moyenne 500 kg de soude par four. La combustion incomplète donnait quant à elle de la cendre de varech qui était également commercialisée vers le continent pour la fabrication d'engrais. Mais justement, à quoi pouvait bien servir cette fameuse soude ainsi produite ? Au XVIIe et XVIIIe siècle, les pains de soude, riches en carbonate de sodium, étaient utilisés dans la fabrication du savon pour nettoyer le linge. Une autorisation de Louis XIV permit également l'utilisation de cendres de varech comme fondant pour les verreries. Les besoins en soude étaient tels qu'en 1775, l'Académie des sciences offrit un prix à qui trouvera le moyen d'en produire de façon industrielle. Ce fut chose faite lorsqu'en 1790, Nicolas Leblanc mit au point un procédé de fabrication industrielle du carbonate de sodium à partir de sel marin, ce qui lui permit de remporter le prix de l'Académie des sciences. Ce nouveau procédé concurrença peu à peu la soude issue du brûlage de goémon, réduisant considérablement la demande. Mais, quelques années plus tard, en l'année 1813, fut découvert l'élément chimique qu'est l'iode à partir de la soude provenant des algues. Et quelques années plus tard, Benoît Tissier mit au point un procédé industriel de fabrication de cet iode. On vit ensuite le littoral se couvrir d'usines et la production se développer considérablement, principalement sur les côtes bretonnes et normandes. L'iode connut différentes utilisations, dans la chimie analytique, dans l'industrie des matières colorantes et aussi comme sensibilisateur en photographie. Mais la majeure partie de la consommation d'iode dans le monde était réservée à un usage médical, médecine humaine et vétérinaire. D'une part pour ses applications thérapeutiques, afin de soigner diverses maladies telles que la syphilis, la tuberculose pulmonaire, la septicémie, l'asthme ou le goitre. D'autre part, pour ses actions physiologiques, servant d'antiseptique ou de cicatrisant, la teinture d'iode étant également utilisée dans la grande et la petite chirurgie. La demande augmenta considérablement au début de la Première Guerre mondiale pour la chirurgie d'urgence des blessures et plaies de guerre, mais aussi pour les gaz de combat. Ainsi, dès 1914, la raréfaction de la main-d'œuvre coïncida avec une forte augmentation de la demande mondiale en iode. Les compléments nécessaires aux besoins exceptionnels européens furent obtenus par l'importation directe d'iode chilien. Et c'est précisément pendant ce premier conflit mondial que le Chile, un bateau chilien transportant entre autres du nitrate de soude, est venu s'échouer sur la côte sauvage de l'Île-Dieu. Parti de Montevideo en Uruguay, ce cargo vraquier devait rejoindre Hambourg afin d'alimenter l'armée allemande en iode. Pris dans une forte tempête dans le golfe de Gascogne, il vint se mettre à la côte le 24 janvier 1917 sur la tête de l'Évêque, récif situé sur la côte ouest de l'île. Il fut déchargé et renfloué par deux navires de la marine française. Le commandant allemand ainsi que les officiers qui se trouvaient à bord de ce fameux bateau, le Chile, furent faits prisonniers et enfermés au fort de Pierre-Levé. Ils ont été libérés seulement en 1919. À partir de 1936, les productions de soude de varech en France diminuèrent significativement à cause notamment de l'abaissement des droits de douane, de la concurrence effrénée des marchés internationaux ou l'élévation du prix de vente des fabricants français. Et l'iode synthétisé vint peu à peu concurrencer l'iode issu des pains de soude. Les derniers brûleurs de Goémont bretons exercèrent leur activité jusqu'en 1955. Et alors, bien sûr, à l'Île-Dieu furent construites des usines d'extraction de l'iode. Une première implantation vit le jour à l'ouest de Port-Joinville, dans le secteur des Beaucilles. Elle fut créée par les frères Courtade en 1870 afin d'extraire de la soude, l'iode justement, le sulfate de potasse, le chlorure de potassium et d'autres produits chimiques. Elle ferma ses portes en 1880 et fut rachetée en 1882 pour faire place à une conserverie de poissons du nom de l'usine de la Fraternité. Une deuxième tentative vit le jour en 1877 dans le secteur de Saint-Étienne, pas très loin de Kerchalon. Cette usine, établie par l'industriel Renault pour le compte de la maison nantaise Avril, arrêta ses activités peu avant 1900 et fut transformée en fabrique de glace. Enfin, une troisième usine de traitement de la soude fut édifiée non loin de la première, au cours du Moulin, en 1925, gérée par la Société des produits chimiques de Paris, dépendant de la Compagnie du Guano. Elle était composée d'un ensemble de bâtiments au centre desquels se dressait une tour en briques coiffée d'un demi-toit conique. Elle cessa son activité en 1934, mais les bâtiments existaient encore à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On les détruisit vers 1953 pour y implanter une glacière à l'eau de mer, gérée par les sociétés des glacières de l'océan. Avant la création de la première usine, un commerçant ilais, Mathieu Penaud, qui possédait une quincaillerie rue de la République à Port-Joinville, commença dès 1868 à acheter au soudier le produit de la combustion du Goémont qu'il expédiait principalement vers Quiberon. L'exploitation des algues sur l'île passa également par la construction en 1887 d'une usine de fabrication d'engrais à base des restes de poissons des conserveries de l'île et d'algues. Elle était située à La Pulante, sur la côte nord-ouest, la plage attenante fournissant les algues nécessaires qui venaient s'y échouer et qui viennent encore s'échouer aujourd'hui en grand nombre. Cet engrais était commercialisé sur le continent. Aujourd'hui encore, quelques vestiges de cette industrie de la soude sont encore visibles sur l'Île-Dieu. L'érosion maritime a permis la découverte de certains de ces fours, notamment sur la côte nord-ouest de l'île, entre la pointe des Cantins et la pointe du Butte, zone où cette industrie était la plus significative. Face au vent dominant de nord-ouest, ces plages, faciles d'accès avec des falaises peu hautes, les rendaient propices au ramassage des algues. Un exemple de ces fours est apparu en coupe de cette dune le 30 août 2016 à la pointe de la Gournaise, suite à une grande marée conjuguée à un fort coup de vent. Ce four, aujourd'hui parti intégralement à la mer, a fait l'objet par mes soins de relevés divers et d'une déclaration au service régional d'archéologie des Pays de Loire à l'occasion d'une prospection diachronique. D'autres fours à soude sont devenus visibles sur cette côte du fait du piétinement important de certaines zones et la mer continue quant à elle de produire son effet de sape sur la dune, ce qui laisse apparaître de-ci de-là des vestiges de ces fours. D'autres fours à soude ont pu être observés sur l'Île-Dieu, mais cette fois le long de la côte rocheuse. Tout d'abord au Sable Rouy, plage située sur la côte occidentale de l'île, perchée en haut de falaises sur la lande, au moins 5 fours ont pu être dénombrés. Deux d'entre eux ont été dégagés en 2011 par les services techniques municipaux et sont axés nord-est-sud-ouest. Enfin, un autre four à soude a pu être observé au-dessus de la plage des Fontaines, sur la côte sud, très loin des zones habituelles du brûlage de Goémont. En haute falaise, l'accès à la plage du même nom est ici, comme au Sable Rouy, très escarpé, n'autorisant pas l'accès aux bêtes de somme. On imagine donc la dureté du travail pour ces soudiers pour remonter justement à dos d'homme des tonnes d'algues ramassées sur la plage en contrebas. D'autres structures témoignent encore aujourd'hui du ramassage des algues à l'Île-Dieu. Ce sont ce qu'on appelle des daviers, également appelés daviedes ou daviers. Il s'agit de simples dalles de pierre percées d'une encoche quadrangulaire utilisées pour remonter les algues lorsque l'endroit de leur récolte est difficilement accessible. Ces daviers étaient disposés en haut des criques ou des grèves encaissées et dans lesquelles des animaux ne pouvaient descendre et où il était trop périlleux pour un homme de transporter des algues dans une hotte sur le dos. Ces dalles posées à plat en haut de la falaise étaient percées d'un trou pour recevoir le pied d'un kourma à l'extrémité garnie d'un réa de poulie. Un filin passant par le réa descendait dans la crique et une nacelle fixée sur son extrémité permettait d'y déposer les algues. Une fois la nacelle pleine, un cheval était attelé au filin et devait remonter le chargement. Trois daviers ont pu être recensés sur l'île, tous trois sur la côte ouest. L'un de ces daviers se trouve juste derrière la pierre Monsieur, un autre se trouve à côté du trou du pigeon et un autre encore près du trou à deux goules. Enfin, l'activité de brûlage des algues sur l'île Dieu persista timidement jusqu'en 1934 grâce à l'usine des produits chimiques de Paris, implantée sur l'île en 1925, au lieu-dit du cours du Moulin. Mais la fermeture de cette usine sonna le glas de cette activité. Entre les deux guerres, l'appel du large fit des émules et les générations suivantes se consacrèrent majoritairement au métier de marin-pêcheur, plus rémunérateur et alors considéré comme plus noble que le métier de la terre ou de la soude. Il est à noter également que l'impact environnemental lié à l'aménagement de ces fours dans la dune était déjà exprimé par Olivier Jules Richard quand il expliquait en 1883 que le creusement des dunes trop près du rivage pouvait amener leur destruction par les vents et les vagues et exposer les propriétés voisines à l'envahissement des sables. De nos jours, toujours contraintes par l'érosion, ces dunes disparaissent peu à peu, non plus du fait des soudiers, mais de l'érosion maritime. Et c'est justement par ce biais que les vestiges laissés par ces brûleurs de goémons sont redécouverts au gré des tempêtes et des grandes marées. Malheureusement, ces découvertes ne sont qu'éphémères, car ces structures disparaissent rapidement et inexorablement, happées par les vagues et perdues à jamais. L'intérêt d'une surveillance active de l'érosion du trait de côte prend ici comme ailleurs tout son sens. Elle permet de recueillir, autant que faire se peut, les informations en lien avec ces découvertes opportunes et de faire progresser les connaissances sur les populations qui évoluaient jadis sur ce petit territoire insulaire qu'est l'île Dieu. Je vous remercie tous pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Au revoir.